Bonjour Mathieu Hanotin.
Bonjour.
Coincé dans les bouchons, c'est pour la raison pour laquelle vous n'êtes pas avec nous ce matin en studio. Comment avez-vous trouvé ce premier débat de la primaire de la Belle Alliance Populaire ?
Bon, écoutez, j'ai trouvé que c'était d'abord d'une très bonne tenue, que l'ensemble des candidats ont été plutôt respectueux les uns des autres, et que ce débat, il n'avait pas pour moi pour but de trouver un gagnant, tant que ça veut dire quelque chose dans un débat à 7, mais plutôt finalement d'ouvrir une porte sur le programme de chacun des candidats, sur celui de Benoît Hamon pour ce qui me concerne, et de donner envie à nos concitoyens, à nos compatriotes, d'avoir envie d'en savoir plus, voilà, d'aller plus loin avec nous dans les 9 jours qui viennent, pour se renseigner sur les programmes de chacun des candidats.
La question du gagnant, elle se posera dans les prochains débats et peut-être en particulier dans le dernier ?
Non, je pense que la question du gagnant, elle se posera, vous savez, le dimanche 22. Et
oui, mais vous savez 24. Par exemple dans la primaire de la droite combien les débats ont pesé sur le résultat ?
Et je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que les débats ont joué un rôle important, mais ce qui se cristallise dans une campagne, vous savez, c'est au-delà d'un débat. Le débat, il permet d'aller vers les gens, il permet d'ouvrir un espace démocratique qui n'existait pas, parce qu'effectivement, il y a l'accès à des millions de personnes d'un seul coup, mais on voit bien que c'est pas en 1 minute 30 qu'on convainc quelqu'un. Sur une réponse, sur un sujet aussi profond, aussi compliqué, par exemple, que la place du travail dans notre société ou que le revenu universel, en 1 minute 30, vous pouvez justement interpeller, vous pouvez ouvrir une fenêtre sur ce que sont vos propositions, mais ça implique justement qu'il y ait une relation construite. Et c'est le choix que fait Benoît Hamon en menant, et je pense que c'est le seul, c'est pour ça que je voulais le saluer de faire une vraie campagne de terrain. Il a déjà fait 4 gros meetings en province depuis le début du mois de janvier. Il y en a 5 autres qui sont prévus, donc 4 en province dès ce soir à Marseille. J'invite tous vos auditeurs de Marseille à nous rejoindre à l'espace Julien pour justement en savoir plus.
Alors, est-ce que vous avez l'impression, comme on l'a dit aussi, je refais le parallèle avec la primaire de la droite, mais est-ce que vous avez l'impression que certains candidats se sont révélés au cours de ce premier débat ?
Moi, je pense que cette campagne, dans sa globalité, permet à Benoît Hamon de se révéler. Permet justement de mettre sur le devant de la scène ce que nous étions, un certain nombre autour de lui, à voir depuis maintenant longtemps, plusieurs mois, plusieurs années, que la gauche avait besoin d'un homme, d'une femme, qui sont en capacité de cristalliser une offre politique qui allie à la fois modernité, mais en même temps ambition à gauche. Vous savez, le problème qu'on a à gauche, c'est que ces dernières années, le mot modernité, il a souvent sonné comme renoncement. Eh bien, Benoît Hamon, il veut être l'incarnation d'une gauche fidèle à ses valeurs, moderne, qui veut vraiment penser les nouvelles solutions, les nouveaux défis qui sont devant nous, mais sans renoncement.
Alors le revenu universel que défend Benoît Hamon s'est fortement imposé dans le débat, dès le début d'ailleurs, on peut dire que c'est un succès, si ce n'est que cette proposition fait à peu près l'unanimité contre elle. Ça coûte 400 milliards, qui les payera, a demandé Vincent Peillon. Alors vous avez la réponse, le plan de financement est clair ?
Alors c'est parfaitement clair, mais quand vous dites l'unanimité, vous parlez de l'unanimité des candidats qui sont contre.
Oui, c'est-à-dire tous les candidats à l'exception de Jean-Luc Benamia.
C'est qu'il y a beaucoup de personnes dans la société d'économistes très sérieux, Daniel Cohen, quand il y a quelques jours sur une radio concurrente, qui expliquait qu'il y avait un vrai sujet sur la question et que c'était parfaitement réalisable. Alors écoutez, nous les choses, on n'a jamais dit que le 1er janvier 2018, il y allait avoir une dépense de 400 milliards. Qui allait tomber. C'est un processus, le revenu universel, vers lequel nous allons tendre. Il y a une première étape que nous ferons et qui est parfaitement financée dès 2018. Cette première étape, ce sera de porter le revenu, de déployer le revenu universel pour les ayants droit aux minima sociaux, au RSA, mais à tous les ayants droit. On va faire de ce droit un droit universel, c'est tous ceux qui y auront le droit le toucheront, il n'y aura plus toutes les démarches à effectuer, ainsi que pour tous les jeunes de 18 à 25 ans. Cette première étape du revenu universel, elle coûte 40 milliards, entre 40 et 45 milliards d'euros. 40 à 45 milliards d'euros, ça ne nous a pas échappé que c'est le coût annuel que nous payons aujourd'hui pour le CICE et le pacte de responsabilité. Pacte de responsabilité qui, quand même, au mieux, selon même ses propres contempteurs, a permis de seulement sauver 75 000 emplois en France. Vous savez que en adressant un revenu universel de cette nature à l'ensemble des jeunes, qu'est-ce qu'on fait ? Au-delà même, là je parle en termes d'effet immédiat, au-delà même de tout l'expérimentation grandeur nature que cela pourra constituer avant une phase de généralisation, mais vous allez libérer immédiatement 500 à 600 000 emplois. Je m'explique, les étudiants aujourd'hui dans notre pays, étudiants salariés dont le taux d'échec est 4 fois supérieur par rapport aux étudiants qui ne travaillent pas. C'est 500 à 600 000 étudiants qui sont obligés de se salarier pour financer leurs études. Si demain vous leur donnez un revenu universel de 600, de 750 euros, c'est autant d'emplois qui seront immédiatement remis sur le marché du travail.
Alors Benoît Hamon veut augmenter les impôts pour les catégories les plus aisées, il l'a dit hier soir, mais il n'a pas voulu répondre à la question de savoir à partir de quel niveau de revenu on est considéré comme aisé et donc frappé par cette augmentation d'impôts. Est-ce que vous pouvez éclaircir les choses sur ce point ? Vous souvenez de ce débat sur à partir de quand on est riche avec François Hollande ? Donc au fond, c'est un peu la question, à partir de quand on est riche avec Benoît Hamon ?
Mais c'est parce que la réponse est plus compliquée, ne tient pas en 30 secondes. Il a été interpellé là-dessus.
Pourtant, c'est un peu ce que je vais vous demander.
Oui, mais c'est moi. Je vais vous répondre très tranquillement là-dessus. On veut remettre du sens dans notre système fiscal. Aujourd'hui, il est frappé sous le sceau de l'injustice. Pour les individus, où effectivement la progressivité plus on progresse dans l'échelle, moins la progressivité de l'impôt est une réalité. Mais au-delà des individus, et le point lourd, le point dur, c'est l'ensemble, et il l'a très bien cité pour le coup, l'ensemble de ces grandes sociétés, notamment ce qu'on appelle les GAFA, vous savez, les Google, Apple, Facebook, Amazon, et les sociétés de cette nature-là, qui échappent totalement à l'impôt dans notre pays. Le sujet majeur aujourd'hui en termes de réforme fiscale, il est dans ces endroits-là.
Donc c'est pour ça qu'il n'inquiétera pas beaucoup en effet les Français de savoir qu'on taxerait un peu plus les grandes entreprises. En revanche, celui qui gagne 3000 euros, 4000 euros par mois, qu'il se demande s'il est considéré comme riche. Et donc,
évidemment, il n'est pas considéré comme riche.
Alors, c'est pour ça. Donc vous avez un seuil quand même à peu près un seuil.
Mais non, il n'y a pas de seuil parce qu'il y a des réalités qui sont quand même complètement différentes. Ce n'est pas la même chose. C'est vous qui avez parlé de 3000 euros. Vous reconnaissez que ce n'est pas la même chose, par exemple, de vivre avec 3000 euros comme en célibataire que d'avoir vivre avec 3000 euros avec deux ou trois enfants à la maison.
Oui, ou à Paris ou en Corrèze.
Ouais. Et à Paris ou en Corrèze. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de généralité à faire sur ces questions. Et il y a en tout cas, le vrai sujet, c'est pas d'opposer les Français les uns aux autres. C'est de s'interroger sur comment est-ce qu'on met de la justice au cœur de notre système fiscal.
Merci Mathieu Hanotin. Bonne journée.